Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Le Positive Morning continue et de manière un peu particulière toute cette semaine puisque nous voulons célébrer la culture, semaine consacrée à la culture et plus particulièrement à la musique. Vous savez que ça nous botte, vous avez déjà remarqué. Et
alors... Ça nous botte, mais qu'est-ce que tu utilises comme expression?
Oui, c'est vrai, pardon. Qu'on aime cela.
Oui, voilà. Exactement.
Demain, c'est la fête. Merci Nathanaël, grand censeur. Heureusement que tu me corriges. Demain, c'est la fête de la musique et du coup, on s'est dit qu'on allait replonger aux origines de la musique. Jonathan, responsable des programmes de Phare FM que vous retrouvez aussi dans l'actualité musicale, est avec nous. Du coup, tous les matins jusqu'à vendredi, ça va Jonathan?
Oui, très bien.
Accompagné d'invités aussi.
Et accompagné d'invités, ça sera pour aujourd'hui, je vais le laisser juste un petit peu développer. Alors, juste brièvement, la dernière fois, c'était hier plutôt. Oui, voilà. On est revenu aux origines finalement, qui sont des origines spirituelles de la musique. C'est de là qu'est partie la musique finalement. C'était aussi une manière de parler de la Bible et des récits de la Bible de manière accessible jusqu'à ce que la musique devienne véritablement extrêmement élitiste. Et on s'était un petit peu arrêté là-dessus, Jonathan.
Voilà, exactement. J'avais parlé en On s'est intéressé essentiellement à la musique classique, qu'on appelle classique aujourd'hui, avec une espèce de séparation 1750 à peu près entre cette musique classique et de plus en plus technique et à l'époque moderne, en recherche de modernité, et puis cette musique populaire, entre guillemets, celle qui se voulait l'expression du peuple, de la reconnaissance du peuple envers Dieu dans les églises. Et donc on va revenir aujourd'hui sur cette partie qu'on n'a pas eu le temps de traiter hier. Donc tous ces hymnes, c'est quantique, puis on va voir qu'avec la culture, avec les différentes cultures, avec l'évolution des âges et des continents, on a différents styles musicaux qui sont arrivés. Et donc on va parler de tout ça. Et puis on aura un invité, comme tu disais tout à l'heure. On va avoir Marc Brunet, qui est le fondateur de Paul et Sephora actuellement. Mmh. Ça s'appelait Sephora Music à l'époque. Mmh. Et donc il y a un des premiers acteurs, un pionnier de la musique chrétienne en France, en francophonie même. Et donc il a vu ces dernières années d'évolution de la musique chrétienne. Et donc c'est un spectateur de choix qu'on va avoir avec nous tout à l'heure à partir de 9h30 à peu près.
Hein. Acteur-spectateur, en effet. Merci Jonathan. On se retrouve dans quelques instants pour développer tout cela. Pour l'instant, la musique, bien entendu, puisqu'on en parle, c'est bien aussi de l'écouter. Voici Satan Irva, voici We Won't Back Down sur Phare FM.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
La belle énergie de Seth & Nirva, c'est bien sûr sur Phare FM que vous les avez découverts. Et c'est sur Phare FM aussi que vous allez pouvoir vous cultiver particulièrement toute cette semaine consacrée à la culture et plus particulièrement à la musique, aux origines de la musique. Le responsable de la programmation de Phare FM est avec nous, c'est Jonathan. Et du coup, on continue justement à développer cette historique ce matin, Jonathan.
Oui, exactement. On revient quelques années en avant, quelques centaines d'années. On revient dans les années 1500 et on va du côté de l'Allemagne où on avait un certain Luther, vous avez certainement entendu parler. Et puis je vous rappelle qu'on a dit hier que la musique évoluait, la musique chrétienne évoluait selon un rapport entre excellence musicale d'un côté et puis sincérité spirituelle de l'autre côté. Et donc on a un Luther qui lui désirait principalement que les chrétiens adorent Dieu avec sincérité et intelligence. Et selon lui, la manière dont la musique sacrée évoluait n'était plus révélatrice de sincérité. Donc il a souhaité que vraiment ça devienne quelque chose de beaucoup plus simple, accessible, avec des paroles que tout le monde pouvait chanter, répéter. Il a composé des chansons comme ça, mais il s'est souvent inspiré de chansons qui existaient déjà, avec par exemple cette chanson que je vais laisser Nathanaël envoyer. Voilà, c'est une chanson originale séculière qu'on pouvait entendre populaire, qu'on entendait un peu partout. Il a réadapté et réécrit les paroles et ça devient cette version. Alors la version originale disait Innsbruck, je dois te quitter. elle devient donc cette chanson d'amour qui devient finalement Ô monde, je dois te quitter. Voilà, tout simplement. Et donc il en a écrit des quantités d'hymnes, de chansons comme ça qui étaient repris dans les églises. Alors ce qui était compliqué à l'époque, c'est que les gens n'avaient pas l'habitude du tout de chanter dans les églises, de chanter tout court. Alors il a fallu, c'était un peu la cacophonie dans les églises, voilà. Et il a fallu mettre en place des cours de chant temps et pour que ça sonne un peu moins faux. Et c'est assez particulier.
Je vois ce que tu veux dire quand j'entends chanter Sandrine, oui.
N'importe quoi. Pardon de t'interrompre, mais est-ce que les gens n'étaient pas choqués à l'époque? Surtout, c'était beaucoup plus puritain, beaucoup plus rigoriste, du coup, de se dire, mais cette chanson, enfin, c'est pas du tout, ça n'a rien de religieux à la base. Et,
ça n'est pas des églises, ça vient du monde.
Oui, c'est ça, ça. On nous dit de chanter ça dans l'église, ça n'a aucun sens.
Mais il faut croire que non, puisqu'ils avaient la possibilité de se l'approprier et puis d'y mettre les paroles qui collaient à ce qu'ils vivaient à l'époque. Ça s'est passé en Allemagne, mais ça s'est passé aussi en Angleterre. Il y avait le même principe avec une personne qui s'appelle Isaac Watts et qui a écrit voilà, des poèmes religieux de composition humaine. Voilà, on entend le grand chœur. Poème religieux de composition humaine conçu pour le culte communautaire. C'était vraiment le but à cette époque-là. On écrivait, on composait des chansons que la foule, que l'église pouvait chanter et reprendre en chœur.
C'est vrai que si c'était censé rendre ça, je comprends les cours de chant en amont, hein, parce que là, il y a quand même du niveau.
Il y a du niveau. Mais c'est vrai que tu n'as pas tort quand tu te parlais d'austérité, d'être vraiment puritain, entre guillemets. Ouais. Calvin, un peu plus tard, était vraiment dans cette notion-là. On lui connaît vraiment cette notion d'austérité. Pour lui, les chants devaient être des sentiments qui sont exprimés par des notes et des idées exprimées par les paroles, afin que les cœurs soient droitement touchés et l'entendement illuminé. Donc c'était vraiment très... Très carré pour Monsieur Calvin. Voilà, la suite, ça continue aussi quelques années après, dans les années 1735, mais on prend quelques moments de respiration avant de rejoindre les frères Wesley, c'est en Angleterre.
Eh bien, on va rejoindre d'abord Beau Fraser, voici Queens, Kings and Queens sur Phare FM.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
À l'instant, Brooke Fraser en duo avec Damien Sargue sur Phare FM, il y a quelques siècles, ils auraient entonné des hymnes dans les églises. Voilà, il y a eu du temps qui est passé, la variété aussi, des choses qui se sont passées au niveau musical. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier toute cette semaine avec Jonathan, qui est responsable de la programmation sur Phare FM. Semaine consacrée sur Phare FM à la culture et plus particulièrement à la musique, aux origines, à la naissance de la musique, à ce qu'elle véhiculait, pourquoi elle était utilisée. Jonathan, nous t'écoutons.
Mais oui, on est toujours en Angleterre. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cette époque-là, en 1735, 1750. On est toujours en Angleterre, à la fois en Angleterre et à la fois aux États-Unis. Ce sont des années où il va se passer beaucoup de choses au niveau de la musique chrétienne. Il se passe des choses aussi ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Mais à l'époque, on est par exemple avec les frères Wesley, John et Charles Wesley. On est en 1735, avec une volonté qui est là de toujours faire en sorte que la musique chrétienne reflète ce qui se passe dans l'église et que puisse être chanté par les gens qui viennent à l'église. Donc on a les frères Wesley qui souhaitent vraiment donner une dimension beaucoup plus personnelle aux chansons. Le chant doit devenir une expérience personnelle. Voilà, ça reflète vraiment ce qu'on vit dans l'église, dans notre foi. Cette dimension personnelle, elle est de plus en plus appropriée aussi par d'autres acteurs de la musique. Ils sont évangélistes à l'époque, ils sont aux États-Unis.
Évangélistes ou évangéliques ?
Évangéliste, on peut utiliser le mot évangélisateur même, hein. C'est-à-dire qu'il y a une dimension prosélyte de transmission de la foi. Ils organisent, les frères Moody organisent des gros rassemblements, il y a des foules qui viennent complètes à ces moments-là, ils vont partager la foi chrétienne et ils utilisent énormément de chants que les assemblées vont reprendre. Ils vont reprendre les codes du gospel, entre autres, qui commencent à arriver dans cette période-là. Le gospel, on en reparlera juste après. Voilà ce qui se passe au niveau de l'Angleterre, des États-Unis. En France, dans les années 1800, au début, il y a beaucoup de cantiques qui ont été chantés aussi. Certains sont d'ailleurs encore chantés dans beaucoup d'églises. Vous les entendez même sur les web radios Phare FM Louange, le groupe Héritage, Sébastien Lemray et Jimmy Lay en ont repris, qui datent de cette période-là. Hein. C'est une époque où il y avait, par exemple, le réveil de la chapelle Tête-Bout à Paris, par exemple. On cherchait à mélanger poésie et musique, une grande recherche dans les textes, voilà, c'est typiquement français ça aussi. On pourrait parler de la culture orthodoxe aussi, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais il y a vraiment énormément de choses qui se sont passées au niveau de Byzance, au niveau de la Russie, où l'église orthodoxe chrétienne est donc énormément développée là-bas. Il y a les églises coptes en Afrique du Nord, en Éthiopie aussi, où on avait vraiment des codes tout particuliers au niveau de l'Éthiopie. Voilà. Ça donne des choses, ah, une ambiance qui est complètement particulière.
C'est des incantations un peu, hein.
Ça ça ressemble, si vous vous rappelez, par rapport à la musique qu'on entendait hier, le chant grégorien, il y a des codes avec sonorités un petit peu plus arabisantes qu'on retrouve. Donc une vraie dimension culturelle qui vient s'imprimer dans l'expression du culte. Et là, déjà, on commence à voir apparaître des styles musicaux, en tout cas des couleurs différentes.
Oh là là.
Et donc, on pourra parler dans quelques instants du gospel. Le gospel, c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné et qui a amené beaucoup, beaucoup de choses dans la suite.
Beaucoup de styles musicaux après.
Beaucoup de styles musicaux dans la suite.
Eh bien, on va voir ça avec toi, Jonathan. Vous avez des questions, n'hésitez pas. +33 652 300 342. On va entamer des thématiques assez intéressantes avec différents styles musicaux. Ça va vous intéresser. Vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à n'importe quel moment. +33 652 300 342.
Semaine spéciale sur Phare FM. Profitez-en avec nous, on se cultive. Jonathan, responsable de la programmation sur Phare FM, revient aux origines de la musique, origine hautement spirituelle, c'est ce qu'on voit depuis hier. Vous restez avec nous.
On se retrouve dans quelques instants avec Kaby, tu seras là, une nouveauté sur Phare FM.
C'est bon ça, et c'est nouveau, KB à l'instant sur Phare FM. On continue en musique. Alors on continue en musique, à parler de musique avec Jonathan qui est le responsable de la programmation sur Phare FM. On revient sur les origines de la musique. C'est toute cette semaine, on y consacre donc cette semaine, Nathanaël.
Et puis Jonathan, on continue avec quoi? Avec du gospel, Sandrine?
On continue avec du gospel, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et alors moi quand j'entends gospel, je pense à l'esclavage.
Mais oui, exactement. On a une époque où le christianisme se répand un peu partout dans le monde, c'est la colonie. Il y a des mouvements de population comme ça et un mélange de cultures qui va impacter forcément la musique. Donc on a l'esclavage comme tu disais, donc cette culture africaine qui va tranquillement migrer vers les États-Unis entre autres, mais aussi vers d'autres pays, mais entre autres vers les États-Unis d'où nous vient le gospel. Le gospel, donc c'était la musique que chantaient les esclaves pour se donner du courage ou pour exprimer dans les champs de coton pour se donner du courage, mais tranquillement aussi ils ont fait la connaissance avec la foi chrétienne et puis ces chansons là sont venues inspirer aussi du coup leur foi est venue inspirer la manière dont ils faisaient leur culte avec des codes qui sont finalement ceux qu'on a toujours entendus. On parlait hier des chants grégoriens, il y avait un mélange de temps parlé et reprise en chanté. Mais il y a un peu cette période, cet exemple-là aussi qu'on retrouve dans le gospel avec le leader qui lance une phrase qui est repris en chœur ensuite.
Donc il y avait vraiment des codes, gospel, ça,
des codes qui sont repris dans le gospel avec tout ce qui existait. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle les spirituals, donc c'est vraiment des hymnes à la sauce gospel. Et d'un autre côté, on a le blues. La différence entre le gospel et le blues, c'est que finalement dans le gospel, il y a la notion d'espoir, alors que dans le blues, on exprime.
Plutôt l'inverse, la mélancolie même.
Voilà, c'est bien.
C'est pour ça qu'on dit avoir le blues alors, Sandrine.
Bah oui, probablement.
Très très bien. En fait, la définition qu'on pouvait donner, c'est le gospel avait la capacité extraordinaire d'unir en dépassant les contradictions, l'expérience de la peine, de la souffrance, celle de la joie, celle de l'espoir, du désespoir, et c'était au cœur de l'expression religieuse. Donc voilà, c'était vraiment le gospel, et le gospel a donné naissance à plein de styles, hein, ce mélange de cultures, on en parlait tout à l'heure. Le gospel mélangé avec les racines qui venaient du folklore irlandais, écossais ou anglais aux États-Unis, ça a commencé à donner le bluegrass ou la country. Et puis tranquillement on a eu le blues gospel mélangé avec la country, le bluegrass qui nous a donné le rock and roll. Donc on est bien la période que Sandrine aime beaucoup,
hein, tout à fait.
Le tout mélangé avec les influences folk européennes, et puis on aura tranquillement la musique qui évolue et des personnalités qu'on connaît bien. Elvis Presley, on le connaît bien. Voilà, il aura d'ailleurs toute une période où il va écrire, composer pour parler de sa foi. Voilà, mettez votre main dans la main de celui qui a marché sur l'eau, celui qui a changé l'eau en vin. Voilà, c'est la réponse anglaise à Elvis Presley. C'était un certain Cliff Richards. Vous connaissez forcément.
Ah oui,
un classique, We Don't Talk Anymore. Cliff Richards a aussi utilisé le rock pour parler de sa foi. C'est toujours Cliff Richards.
C'est le même.
Precious Lord, take my hand. Précieux sauveur, tiens ma main. On connaît aussi ce fameux, et c'est le dernier prix Nobel de littérature, rien que lui, oui, le fameux oui. Bob Dylan a marqué des générations avec son fameux Gotta Serve Somebody. Écoutez. Et oui, c'est fameux ça, hein, ça a tourné sur toutes les radios à l'époque, et pourtant il y a un message très très clairement évangélique dedans. On doit forcément servir un maître, on doit servir Dieu d'un côté ou on doit servir le malin. De l'autre côté, on doit faire un choix. Voilà, ça c'était Bob Dylan. D'autres exemples, un dernier peut-être avec U2, vous connaissez ?
Ils se sont fait connaître
mondialement avec cet album de Joshua Tree. D'ailleurs, c'est le nom de la tournée qui est en ce moment. Hein. C'est vraiment l'album le plus connu du groupe anglais. Et notamment avec Bono, le leader du groupe qui n'a jamais caché sa foi. Il a souvent utilisé sa musique pour la partager avec entre autres le fameux Pride. Ou encore un titre qu'on va s'écouter d'ailleurs. Je vous propose de s'écouter. Écoutez, I still haven't found what I'm looking for. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. On va se l'écouter et profiter de ce très bon titre, un classique de U2.
Phare FM, la radio autrement.
On continue avec Jonathan qui est responsable de la programmation sur Phare FM cette semaine spéciale tous les jours. Ça a commencé hier entre 9h et 10h. Jonathan est donc avec nous et on parle de musique, on parle des origines de la musique, origines hautement spirituelles. Et là, on a abordé un genre qui me tient personnellement très à cœur, c'est le gospel qui a infusé finalement jusqu'au rock'n'roll. Et c'est absolument génial, Jonathan, de voir justement à quel point ce gospel s'est répandu. À la base, ça venait des esclaves et ça a finalement infusé quasiment tous les styles musicaux.
Exactement, avec une dimension beaucoup plus personnelle, pas juste institutionnelle, une dimension personnelle de la musique chrétienne. Les artistes expriment, parlent de leur foi dans leur musique. Ils utilisent la musique pour parler de leur foi. Donc on a parlé de ces artistes internationalement connus. Et parallèlement à ce qu'on entend avec les U2, les Bob Dylan, il y a une véritable industrie, entre guillemets, de la musique chrétienne. Des artistes qui sont chrétiens, qui vont se mettre entre eux et s'organiser entre eux pour créer de la musique qui va véhiculer ces valeurs chrétiennes. Et puis on est dans les années 70 et puis on a quelqu'un avec nous, un invité qui a été spectateur
et acteur aussi
dans un premier temps
oui,
et
vrai.
Acteur ensuite dans le milieu francophone. Bonjour Marc Brunet.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir avec nous à l'antenne de Phare FM. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé à vous d'intervenir dans cette matinale spéciale ? C'est parce que la musique chrétienne vous a forcément parlé, puisque vous avez créé un label, un distributeur de musique chrétienne. C'était dans quelles années et comment ça s'appelait ?
Ben, je crois que chrétienne, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai commencé concrètement l'apprentissage de la musique à titre personnel vers l'âge de 11 ans. Mais déjà, mon père était musicien, a dirigé des grandes chorales, et donc la fibre musicale était présente dans ma famille. Et j'ai commencé à chanter avec mon frère vers l'âge de 14 ans. On a commencé à faire des concerts. Et il y a eu donc toute une évolution, une démarche qui s'est faite dans ma vie pour arriver quelques années plus tard à passer en quelque sorte de l'autre côté de la barrière pour passer de musicien à m'occuper des musiciens et des chanteurs.
Mais oui. C'était dans quelles années donc ça, Marc Brunet ?
Officiellement, c'était dans les années fin 70. Ouais.
Voilà, donc c'était les époques où aux États-Unis on avait des groupes comme Kate Greens, vous connaissez forcément.
Alors, Kate Greene, ce que je vais devoir diffuser, voilà, maintenant, c'est ça que tu m'attendais. Oui, j'entends. Voilà, c'était ça.
Voilà, ça évoque peut-être des souvenirs à certains. On avait un très bon guitariste, un Phil Keaggy. Et puis, les années 80, avec tranquillement des artistes que vous avez connus, un certain Michael W. Smith, ça vous parle ?
Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aux États-Unis plusieurs fois et puis d'organiser des concerts pour lui. Enfin, à cette époque-là, je participais à pas mal de conférences aux États-Unis et puis La première activité officielle de Sephora, c'était la publication d'un magazine sur la musique et l'art chrétien, et puis l'organisation de concerts et de tournées. Mmh. Et la première tournée que j'ai organisée, ça a été avec un artiste américain qui s'appelle Tom Ward, mmh. et un excellent pianiste. Et c'était assez épique, cette première tournée, mais c'était une première en France.
Mais oui, mais j'imagine qu'à cette époque-là, de toute façon, tout devait être un peu épique, c'était en train de se construire. On a vu des artistes monter en flèche et même apparaître dans les top 10 des albums les plus vendus. On a une certaine Amy Grant à l'époque qui avait vraiment cartonné, une artiste qui s'annonçait comme une artiste chrétienne, mais qui même dans l'industrie du disque séculière a vraiment cartonné. On avait des Steven Curtis Chapman. Et puis, à la fin des années 80, c'est le rock qui monte, un rock presque psychédélique avec, rappelez-vous, c'était Petra. On a encore quelques exemples sur Phare FM de Petra. Voilà, c'était vers la fin des années 80, un nouveau style musical qui monte avec des dissitals, que d'autre part la folk créative de Jars of Clay, Cadman's Call. On a exploré tous les styles musicaux jusqu'au plus extrême. On y a eu, dans le milieu chrétien, des artistes qui ont fait du metal, du black metal. Il y a eu vraiment un peu de tout. Et puis, parallèlement à ça, en France, il s'est passé des belles choses dont on va continuer à parler dans quelques instants avec notre invité. Marc Brunet est notre invité. Il était un des pionniers de la musique chrétienne en francophonie. Et on se retrouve dans quelques instants.
Oui, ne bougez pas Marc, on va s'écouter Chain and Chain. Maintenant, voici Liberty sur Phare FM. On revient notamment avec Jonathan et son invité Marc Brunet.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Toute cette semaine est consacrée à la culture et plus particulièrement à la musique, aux origines de la musique. Merci et bienvenue si vous arrivez à l'instant à l'écoute de Phare FM. Demain, c'est la fête de la musique et on a choisi de remonter jusqu'aux origines de la musique. Origines qui sont finalement des origines très très spirituelles. On a parlé tout à l'heure du gospel qui a donné naissance entre autres au rock'n'roll. Et Jonathan, le responsable des programmes sur Phare FM, a un invité ce matin. On continue ensemble jusqu'à 10h.
Et oui, Marc Brunet est avec nous. Il est le fondateur d'un distributeur de musique chrétienne qui s'appelait à l'époque Sephora et que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sous le nom de Paul et Sephora. Bienvenue Marc, on continue à discuter de la musique chrétienne dont vous avez été un acteur, un pionnier, notamment en francophonie. Est-ce que vous avez quelques anecdotes? C'était quoi les premiers groupes de musique chrétienne francophone dans les années 80, peut-être même déjà à la fin des années 70, non?
Mais en France, ça a commencé bien avant, dans les années 60, 50-60. Il y a eu des gens comme Charles Rodat ou Gérard Payon qui ont été des pionniers à leur époque, qui ont essuyé beaucoup de problèmes et de critiques par rapport à l'engagement qu'ils avaient, à ce qu'ils chantaient. Pourtant, c'était une simple voix avec une guitare sèche, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Après, on a eu la batterie qui est arrivée, les guitares électriques, et c'était un scandale de plus. Et ces groupes ont vraiment été motivés pour continuer dans cette démarche, dans ce qu'ils croyaient. Et donc, il y a eu des gens comme le groupe Naissance, c'était un groupe suisse qui a pas mal tourné. Il y a eu le groupe Cascade aussi, d'un groupe français. Et bien sûr, le fameux groupe Pâturage, qui a marqué son époque. C'était un des pionniers en France avec Christian Gonzalez, qui ont su redonner une qualité, une valeur à la musique chrétienne. Mmh. Et on a eu aussi des gens comme Jean Paulhem. Enfin, il y a eu des dizaines d'artistes qui se sont levés à cette époque chanter, pour jouer. Bon, le rock n'était pas vraiment du rock. Il y avait peu de groupes qui faisaient vraiment du rock, mais le style était quand même révolutionnaire.
Bon, super. On a quelqu'un qu'on connaît beaucoup sur Phare FM qui intervient, qui avait fait un groupe à l'époque, Jean-Luc Gadreau. Il avait fait quelque chose, non?
Oui, absolument. C'était déjà un peu plus récent par rapport à cette période. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de connaître Jean-Luc il y a très longtemps. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a organisé des concerts ensemble. Et lui avait monté le groupe Label 7 qu'on a distribué effectivement dans le cadre de Sephora. c'était aussi un groupe très novateur avec il y avait particulièrement le musicien chanteur, un excellent guitariste, enfin qui joue toujours, Nicolas Desmarais, mm-hmm. et que l'on a produit dans le cadre des activités de Sephora, puisqu'il a été le premier artiste qu'on a produit sous le label Latitude 116 qu'on avait créé en 98.
Ouais, la musique chrétienne francophone qui se structure, qui se construit tranquillement et dont on va continuer à parler avec notre invité Marc Brunet. Qu'est-ce qui se passe pour la suite, Sandrine?
Ce qui se passe pour la suite, c'est qu'on va écouter un petit peu de musique. Hein.
On va faire une petite pause, on va s'écouter de la musique avec Colony House dans quelques instants sur Farm FM. On retrouve notamment Jonathan et Marc Brunet pour la conclusion et terminer déjà cette deuxième journée concernant la musique chrétienne. A tout de suite.
Phare FM. Ma radio.
Nathanaël qui ne peut pas s'empêcher de faire les chœurs. Et vous aussi, vous aimez chanter, vous aimez la musique, vous avez choisi Phare FM, vous avez bien raison. Colony House, à l'instant sur Phare FM, semaine consacrée à la culture et à la musique où nous revenons aux origines de celle-ci. Jonathan, responsable des programmes, est avec nous toute la semaine de 9h à 10h avec des invités dont Marc Brunet aujourd'hui. Marc, vous nous parliez tout à l'heure de cette période faste finalement où en France, il y a eu plein de groupes qui ont émergé dans les années 80, d'artistes aussi qui ont commencé à chanter leur foi de manière particulière. Du coup, pour l'époque, c'était assez novateur de juste prendre sa guitare et puis de chanter sa foi comme ça et de vouloir faire des disques. Il y a eu aussi pas mal de festivals à l'époque.
Oui, absolument. On a lancé en 83 un grand festival qui s'appelait Festival Sephora, dont la première édition a eu lieu à Dijon. Là aussi, c'était un peu à l'exemple de mon père, en fait, qui avait créé, organisé le premier festival de musique chrétienne actuelle en 1972 à Agen. Et après, bon, il y a eu toute une période un peu de creux. En 83, on a repris le flambeau pendant 10 ans pour organiser ces festivals qui ont réuni 2 à 3 000 jeunes le week-end de Pentecôte.
Excellent. Donc, dans ces années-là, quels sont les groupes ou les artistes qui, pour vous, ont marqué vraiment la musique chrétienne francophone?
Alors, il y a eu des gens comme le Trio Rofidal, comme Corinne Lafitte aussi, Jude 25, qui existe toujours, plus tout à fait sous la même forme.
Moi, je me souviens de Jude 25 en famille aussi.
Qui ont marqué leur époque et qui ont impacté beaucoup de gens au travers de leurs concerts et de leurs albums. Après, un peu plus tard, il y a eu